Bonjour, nous sommes le lundi 2 novembre, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et c'est reparti pour la relève, le rendez-vous des nouveaux talents. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh là, nous allons parler, je vais surtout essayer de ne pas bégayer, nous allons parler de radicalité et de fantaisie, mon activité étant écrivain. Bonjour, comme Martin Carl.
Bonjour.
Alors, vous avez publié, car vous êtes un homme chanceux qui a du nez, début février, La réaction aux éditions Gallimard. C'était comment de sortir un livre en plein confinement?
Alors moi, j'ai eu la chance de le sortir 3 semaines, je crois, avant le confinement, parce que j'ai des collègues ou confrères, que sais-je, qui ont sorti genre le mardi du confinement. Donc là, c'était une catastrophe. Oui, c'est un peu, il y a un peu le sentiment d'un livre un peu guillotiné à un moment, parce que évidemment, il y avait plus de promo, plus de librairie ouverte, etc. Mais voilà, un livre, ça existe quand même plus longtemps que son simple moment de promotion.
On va tout dire, on devait se voir en juillet, puis on s'est aussi raté, Radio Campus et vous, et notamment moi, c'est surtout moi qui ai bien raté à l'époque. Et donc voilà, on ne va pas dire que c'est un livre maudit, parce qu'il ne mérite pas
non,
de l'être.
Non, il n'est pas maudit.
C'est aussi un livre très drôle. Et en l'écrivant, vous avez pensé à qui sont les auteurs qui vous inspirent?
Des auteurs très différents, en fait, ceux que je lis et que j'admire, je ne sais pas s'ils m'inspirent, enfin probablement. Sur le côté humoristique, puisque c'est la question que vous posiez, je pense à quelque chose un peu de Houellebecquien, on va dire, puisque il y a du comique chez Houellebecq. Enfin, j'aime pas tout ce que fait Houellebecq, mais en tout cas sa dimension comique, elle est assez, je pense, commune peut-être à ce que je fais. Et par ailleurs, dans des choses un peu plus sociologiques, j'adore Édouard Louis, donc il y a aussi une espèce de regard sur le monde un peu froid qu'on peut retrouver chez Édouard Louis ou Annie Ernaux. Il y a peut-être un peu de Léon Blois aussi, puisque il y a un petit peu de pamphlétaire un peu excessif dedans aussi. Voilà.
C'est très drôle que vous citiez ces deux-là, parce que j'avais écrit une question pour vous qui était, est-ce que vous préférez être un Houellebecq de gauche ou un Édouard Louis de droite?
Je préfère être un Houellebecq de gauche 6000 fois.
C'est parce que vous préférez être de gauche que de droite?
Voilà, exactement. Non, mais c'est la question intéressante, parce que c'est un des reproches qu'on peut faire à ce texte, c'est qu'on peut se demander d'où il est écrit, d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai qu'on est parti, et j'ai pas du tout fait mon travail, c'est-à-dire raconter ce que raconte le livre. En tout cas, le pitcher, comme on dit, c'est que c'est donc une histoire d'un jeune homosexuel qui se retrouve à l'extrême droite et sur comment dire, cette mouvance gay d'extrême droite.
Voilà, enfin, en tout cas, qui est militant d'extrême droite, il se trouve être gay, etc. Et puis, il va évoluer, grenouiller dans ces milieux de plus en plus radicaux. C'est pour ça que ça s'appelle la réaction. Enfin, voilà, dans des milieux réactionnaires. Et c'est vrai qu'on peut lire et on peut se demander d'où il est écrit, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que
vous adhérez aux théories du personnage?
C'est écrit à la première personne, le narrateur.
On sent quand même que vous en moquez un petit peu. Quand vous inventez un site... Alors, je ne sais plus, ce n'est pas Béarnais de Souche, mais c'est un truc dans le genre.
Oui,
il y a aussi le Ku Klux Klan.
Oui, voilà.
Là, donc, on voit bien qu'il y a une dimension parodique à assumer quand même.
Il y a une dimension parodique et voilà, complètement assumée. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris parfois sur des mélectures qui étaient un peu... on prenait pour un nihiliste, un peu dandy fin de siècle, qui met tout à la poubelle, toutes les idéologies, qui est au fond aussi quelque chose de l'ordre de la réaction, d'une certaine manière. Donc à la question, est-ce que je préfère être un Houellebecq de gauche ou un Édouard Louis de droite, un Houellebecq de gauche, parce que je pense que, enfin, je parlais de Houellebecq tout à l'heure, que j'admire en tant qu'écrivain, et je pense qu'il a apporté un truc fondamental à la littérature française dans les années 90. Enfin, il y aura un avant, un après lui, enfin, ça l'est déjà en fait. Et en revanche, politiquement, c'est une catastrophe pour moi, donc je pense qu'il y a de la place pour s'emparer de son projet littéraire avec une autre visée politique.
Vous parliez de la dimension sociologique d'Édouard Louis. Est-ce que justement ce qui a chez vous provoqué l'intérêt de ce livre, c'est d'aller enquêter sur ce milieu gay d'extrême droite qui n'existait peut-être pas forcément il y a 30 ans, où l'extrême droite était homophobe, et peut-être d'ailleurs qu'elle l'est toujours, mais qu'elle le dit moins. Enfin, elle l'est toujours.
Alors je ne sais pas, j'ai pas vraiment enquêté sur le milieu gay d'extrême droite, j'ai enquêté sur le milieu d'extrême droite. Il se trouve que mes personnages sont gays, qu'en réalité il y a toujours eu un peu, enfin, même au Front National, hein, il y a des figures qui sont connues, même de l'époque de Jean-Marie Le Pen. Hein, je sais plus,
il y a l'histoire de Poulet-Dacharie, etc.
Donc voilà, il y a toujours eu une espèce de marigot, un peu dandisme fin de siècle, décadentiste, gay, quoi, qui existe un peu à l'extrême droite. Mais j'avais été frappé il y a quelques années, parce que j'avais discuté sur une application de rencontre géolocalisée pour gays, avec un mec qui avait genre 20 ans et qui était hyper intéressant, tout ça, nanana, on parlait. Et en fait, je découvre qu'il est au Front National et ça m'avait vachement frappé parce que je me suis dit, ce mec-là, il y a 10 ans, 15 ans, il aurait été plutôt à la LCR, quoi. Et l'espèce de truc un peu genre être dans une posture un petit peu à la fois anti-système et intellectuel aurait été plutôt à l'extrême gauche, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une frange de la communauté homosexuelle qui a envie de s'exciter du côté de l'extrême droite.
Est-ce que, je vais vous poser la question la plus posée et peut-être la plus fatigante, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout ? Parce que pour moi, votre livre est d'abord un livre drôle, donc je suis désolé, j'ai pas vu le côté décadent, j'ai surtout vu le côté drôle.
Ouais, ouais, tant mieux. non, je pense pas qu'on puisse rire de tout. Enfin, de toute façon, la réponse est toujours oui, mais pas avec n'importe qui, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne peut pas rire de tout, en réalité. Il y a des sujets qui sont... surtout aujourd'hui, je trouve, où la question de l'humour, elle est de plus en plus politique. C'est une vraie question qui me traverse parce que l'humour avait quelque chose de révolutionnaire à un moment. Je me demande si parfois l'humour, il n'a pas quelque chose de réactionnaire aujourd'hui. Donc je n'ai pas la réponse immédiate et très construite à cette question. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un point d'inflexion politique sur le rapport à l'humour, c'est certain. Et je dirais plutôt, probablement, on ne peut pas rire de tout.
Si je reformule ma question, est-ce que finalement votre livre ne propose pas le meilleur moyen de lutter contre l'extrême droite en montrant à quel point ce qu'elle raconte est ridicule, alors que régulièrement on a plutôt tendance à en avoir peur, à se raidir en disant oh là là c'est horrible, c'est le fascisme. Vous avez l'air de dire finalement lisez ce qu'ils écrivent, c'est n'importe quoi.
Oui, il y a quelque chose de ridicule en fait, je trouve, de mon point de vue dans la pensée réactionnaire, et du coup qui a un potentiel comique, qui a un énorme potentiel comique. Puisque...
Par exemple, les gens qui pensent que Gutenberg est le fossoyeur de l'humanité, vous les avez inventés, et qui distribuent des tracts pour expliquer que l'écriture est l'ennemi ?
Oui, l'imprimerie est l'ennemi, mais parce que, en fait, en vrai, si on va jusqu'au bout de la pensée réactionnaire, c'est jusqu'où l'humanité est-elle allée trop loin, quoi. Donc, les réactionnaires un peu mainstream, ils vont dire mai 68. Après, les réactionnaires un peu plus intello, ils vont dire 1789, ce qui est de plus en plus dans le débat public, d'ailleurs. Hein, je veux dire, de Finkielkraut à Onfray, je pense que dans 5 ans, 1789 est un problème pour la France. Hein. Mais si on va jusqu'au bout, on fait peut-être c'est pas 1789, peut-être c'est le protestantisme qui a commencé à détricoter, voilà, et pourquoi pas l'imprimerie en fait, qui a commencé à généraliser le livre et qui a du coup ouvert les portes à l'individualisme. Donc ils vont jusqu'au bout de la réaction, ces personnages, en luttant contre l'imprimerie.
Et ça vous fait rire ? Oui, la pensée réactionnaire vous fait rire, vous ?
Parce qu'il y a quelque chose de ridicule dans son raisonnement.
C'est quoi, c'est le c'était mieux avant ? C'est qu'il y aura, oui, toujours, il y aura toujours un avant où c'était mieux ?
En fait, ce que je trouve hilarant, ce que je trouve, en tout cas, qui peut avoir un potentiel hilarant, c'est le fait que c'est une pensée vraiment, bas de plafond. En fait, vraiment complètement préjugé, c'était mieux avant, qu'on ressent quand on a plus de 30 ans et qu'on se dit ah là là, c'était bien quand j'avais 15 ans en fait, et qui devient un projet politique, qui est assis sur des théories fumeuses. Là, il y a quelque chose qu'on commence à détricoter qui peut être très très drôle.
Mais je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Adolescente, chute est géniale pour ça. Là, les deux, elles ont quoi ? Elles ont 18 ans et elles se rappellent leurs 14 ans.
Mais bien sûr,
c'était mieux quand il n'y avait pas de portable.
Tout le monde rejoue toujours cette espèce de... Puis tu sais, je crois qu'il existe des textes du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui disent « Ah là là, les jeunes aujourd'hui, ils savent plus, ils ne font plus confiance à leurs aînés, etc. » Enfin, voilà, on rejoue toujours la même chose. Mais ce que je trouve hyper drôle, c'est quand c'est assis sur des bases théoriques fumeuses, parce qu'il y a un truc très lettré aussi dans une forme de l'extrême droite qui va lire des textes, voilà, qui vont défendre justement en fait quelque chose qui est vraiment de l'ordre du très extrêmement bas de plafond intellectuellement.
Je sais bien que vous êtes écrivain, pas sociologue, mais j'ai beau adhérer avec vous pour trouver tout ça très drôle, il n'empêche qu'aujourd'hui, ces théories-là gagnent du terrain. On pourrait parler de Trump. Dans l'émission, sera diffusée avant l'élection, donc on peut y aller.
Oui, c'est dans 2 jours, l'élection.
Donc, je ne sais plus trop.
Si c'est lundi 2 novembre que nous sommes aujourd'hui.
Ouais, donc, ça sera dans 2 jours. Ouais. Dans 2 jours, il y aura l'élection. Là, ça peut marcher aussi, ces discours-là.
C'est pas que ça peut marcher, c'est que ça marche.
Ça nous fait peut-être rire entre nous, mais ça marche avec beaucoup de monde.
Oui, c'est pour ça qu'il y a peut-être un truc tragique aussi. Enfin, de toute façon, il y a un truc tragique dans l'humour, hein, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'est que c'est la réaction, comme on pourrait dire, la réaction qui vient, voire la réaction qui est là, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper mainstream aujourd'hui. C'est même, en fait, le progressisme au sens, pas au sens macronien, mais au sens penser qu'il peut y avoir du progrès, de l'émancipation. C'est une idéologie qui est défendue par quasiment plus personne aujourd'hui, j'ai le sentiment.
Le Bondo qui avait mis votre éditeur autour de votre livre disait « J'avais peur d'être devenu consensuel », c'est aussi une peur chez vous ?
Pas du tout. Voilà, pas du tout. Justement, ça, c'est aussi, je pense, un des trucs qui peut être un peu... qui peut gouverner les mélectures de ce texte, c'est que c'est le narrateur qui le dit et qui, voilà, pour moi, qui pointe ce côté, cette espèce de posture que certaines personnes ont de toujours être surtout pas d'accord avec le mainstream. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en vrai, les personnages qui sont hyper subversifs d'extrême droite, en fait, ils sont dans le mainstream parce que justement, la réaction, elle est là. Et donc, c'est aussi l'histoire de ça. C'est un mec qui veut de plus en plus être le plus radical des radicaux et qui va aller jusqu'à combattre l'imprimerie parce que il voit que le monde dans lequel il est, la France dans laquelle il est de plus en plus réactionnaire et que en fait c'est complètement mainstream aujourd'hui de dire que c'était mieux avant.
Enfin, lui il va très loin, il va dans les groupuscules les plus improbables, des gens où ils sont 5, où ils truquent les élections entre eux. Enfin, c'est vraiment un univers groupusculaire. Là, vous êtes amusé à les inventer ceux-là.
Alors moi, j'ai eu un passé militant plutôt à l'extrême gauche, et donc il y a aussi une jouissance à la sociologie groupusculaire. Donc ça, c'est pas propre à l'extrême droite, c'est propre de toute façon à tout. D'ailleurs, pas que dans la politique, hein, dans plein de petits milieux. Enfin voilà, dès qu'il y a des chapelles qui se forment, etc. Donc effectivement, il y a le côté ils sont 3, ils font une scission. Enfin voilà, qui est pareil à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou à d'autres endroits où on va s'arracher les cheveux pour des micros détails dans un texte d'une résolution et on se réunit dans des cafétérias casinos parce qu'on n'a pas de siège du parti, quoi. Ça, je l'ai vécu vraiment, quoi.
Comment vous inventez quelque chose comme le Ku Klux Klan? Comment vous vient l'idée?
Alors, je suis hyper fort en jeu de mots, d'abord.
D'abord. Ça se voit, non, mais ça se voit quand on vous lit.
Mais en fait, quand j'écris ça, je me dis, merde, j'aurais jamais de traduction. Quoi, parce que...
ça, c'est un peu
alors,
compliqué.
Si j'ai une traduction en russe, ce qui va sortir, ce qui est assez drôle, parce que ce qui est drôle et étonnant, et en même temps, je trouve qu'il va avec, parce que c'est un peu le pays de phare de lance d'une forme de réaction, donc c'est assez ironique.
Vous croyez qu'ils n'ont pas compris que c'était un livre ironique, justement?
Je sais, j'ai aucune idée de ça. De ce qu'ils ont. C'est très étonnant de savoir qu'on a acheté les droits en russe, donc je suis curieux de savoir. Je ne pourrais pas savoir, je ne parle pas russe, donc voilà, je vais ouvrir un texte en cyrillique, je n'aurai aucune idée de la réception possible.
Vous avez une idée du prochain livre que vous allez écrire ?
J'ai plein de différentes idées, peut-être un livre sur la nuit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nuit, en fait, hein, depuis un an. Et,
depuis qu'on est masqué, c'est ça ?
Depuis qu'on ne peut plus sortir, etc. Et il y a une poésie de la nuit et de la fête et de sortir la nuit qui a quelque chose de profondément romanesque. D'ailleurs, je ne serais pas le seul à avoir soulevé ce point-là, mais il y a quelque chose de très inspirant là-dedans.
Votre part réac à vous, c'est d'écrire des livres. Vous ne pouvez pas faire des tweets comme tout le monde ?
Alors, je fais des tweets, mais personne ne les lit parce que j'ai 3 abonnés, donc voilà. Donc non, je suis pas réac, j'écris des tweets aussi.
Non, mais la question, c'est est-ce qu'écrire des romans, c'est encore moderne pour vous ?
En fait, écrire des romans...
Écrire,
ouais, parce que c'est une vraie question. J'ai pas la réponse et c'est vrai que ça fait partie des questions qui peuvent me traverser, quoi. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui écrire ? Qui lit ? Qu'est-ce que c'est écrire un texte de 250 pages publié sur du papier ? Voilà. Il y a peut-être quelque chose de... On a un monde qui est en train d'être bouleversé. Après, ça fait 150 ans que le roman, comme ça, cette forme-là existe. C'est peut-être la fin de course, peut-être pas. Peut-être que ça traverse le temps. On pensait qu'il allait mourir après le cinéma, mourir après la radio. Hein. Il est encore là, donc probablement. La littérature, en tout cas, elle continuera à exister, peut-être pas sous la forme de livres, papier broché comme ça, mais la littérature, elle continuera à exister, parce que ça fait plus de 2000 ans qu'elle existe, quand même.
Et ben voilà. En tout cas, si nos auditeurs ont envie de lire un roman, on leur conseille de lire La Réaction de Côme Martin-Carl aux éditions Gallimard. Merci d'être passé par le studio de La Relève.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
À bientôt.